Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question de Saint Thomas More ou Saint Thomas More. Saint Thomas More, c'est vraiment l'un des plus grands saints de l'histoire d'Église, non seulement pour sa culture énorme, il était un ami d'Érasme, il a écrit sur Pic de la Mirandole, qui était, dit-on, une encyclopédie vivante, etc. Vraiment un homme remarquable qui était chancelier d'Angleterre, c'est-à-dire il avait atteint les plus hauts postes. Et grâce à son honnêteté, à son intégrité, à sa bonté, il était aussi un grand ami d'Henri VIII quand Henri VIII était catholique. Henri VIII a détaché l'Église catholique d'Angleterre de l'Église catholique universelle. Et Thomas More n'a pas voulu le suivre. Il a été décapité en 1535. On le fête le 22 juin, Saint Thomas More, en plein été. Il est né en 1477. Et comme je viens de vous dire, il est mort en 1535 à 58 ans. Mais en 58 ans, il accomplit vraiment le maximum, on peut dire, de ce qu'est la sainteté simple, humble, vraie, d'un très grand homme. Il est né dans la cité de Londres, durant l'octave de la Chandeleur, le 6 ou le 7 février, on n'est pas sûr, 1477. Et il pouvait pas secouer le désir de prendre femme, dit Érasme, qui l'a très bien connu. Et il fallait qu'il se marie, il aurait bien voulu devenir religieux, peut-être même chartreux, mais il a donc accepté ce que Dieu semblait bien lui demander. Il a voulu servir Dieu comme laïc. À 27 ans, en 1504, il est élu député à la Chambre des communes, dont il devient d'ailleurs le président, comme on dit en langage qu'on connaît bien, le speaker, l'orateur, hein, au Parlement de Londres en 1523. Et il s'était marié en 1504 quand il a été élu député à la Chambre des communes. Il a eu trois filles et un fils. Sa fille aînée, Margaret, a été la confidente de son père au moment de sa mort en particulier, où il a été enfermé dans la tour de Londres avant d'être décapité à cause de sa foi catholique et de son attachement à l'unité de l'Église. Le mari de sa fille aînée, Margaret, s'appelait William Roper. C'était son premier biographe anglais, car de nombreuses vies ont été écrites sur Thomas More. Il est resté veuf, lui, en 1511, Thomas More, donc 7 ans après son mariage, à 34 ans. Il a épousé à ce moment-là Alice Middleton, dont il est souvent question dans sa vie, cette veuve d'un négociant qui devient une excellente épouse et en particulier une bonne maîtresse de maison. Il en avait besoin car il était très hospitalier, il avait une immense maison de l'autre côté de la Tamise et il recevait beaucoup. Il a reçu comme ça Érasme pendant longtemps. Elle était peu instruite, au contraire de son mari. Puis elle a gouverné très sagement cette espèce de, comment dirait-on, cette maison qui était presque comme un mini-collège, que Thomas More, en bon pater familias, comme on disait autrefois, père de famille immense, avait institué, car il y avait là des précepteurs laïcs bien rétribués qui enseignent la piété, les humanités gréco-latines aux quatre enfants, de More. Puis à d'autres, il y avait une petite fille adoptée, il y avait des pupilles, des nièces, des cousins, des cousines, des voisins, imaginez. Et More supervise les études, même durant ses absences, par des lettres adressées à ce qu'il appelle son école. Et Saint Thomas More exige un courrier quotidien en latin de chaque élève, car dans ce temps-là, hein, le latin, c'était presque une langue vivante. Et il inculque à tous un idéal de vraie piété. Durant sa jeunesse, Thomas More a composé de nombreux poèmes en anglais et en latin. Il en a même composé des satiriques car il était plein d'humour. Il traduit d'ailleurs en latin des épigrammes de l'anthologie grecque. Comme vous voyez, ses connaissances culturelles sont déjà immenses dans sa jeunesse. Il dédie à une Clarisse qui s'appelle, d'un curieux nom, Joyeuse Lee, L-E-E, son amie d'enfance. Par comme une espèce de bouquet spirituel, c'est... Puis il écrit aussi une biographie de Jean Pic de la Mirandole, dont je vous ai glissé le nom tout à l'heure, écrit ça en anglais, avec un assortiment de ses œuvres, des lettres, des commentaires du psaume 15. Il écrit 12 règles du combat spirituel, une prière à Dieu notre Père, etc., etc. Et le grand ami de More, donc, a été Erasme. Il était étudiant lorsqu'il se lie d'amitié avec Erasme en 1499. Et Thomas More est pour son aîné Erasme, dont je vous ai déjà parlé, je lui ai consacré une émission à Erasme. Il est pour son aîné comme un jeune frère plein de déférentes émulations, comme on dit. Durant le second séjour d'Erasme à Londres de 1505 à 1506, les deux amis s'exercent ensemble à traduire les dialogues de Lucien de Samosate, s'amuse à ça, vous voyez, qui devient un de leurs maîtres, à écrire. Ce qui survit de leurs échanges de lettres, les 50 lettres échangées de 1499 à 1533, deux ans avant la mort de Saint Thomas More, a été publié en latin. Et la version française, Erasme de Rotterdam et Thomas More, correspondance par Marcadour et Galibois, a été publié, je le signale, par l'Université de Sherbrooke en 1985. J'en profite pour saluer nos auditeurs de Sherbrooke. Et ce livre permet de suivre le cheminement de ces deux grands amis, qui sont comme des frères d'armes, dans les intervalles qui séparent leurs lettres. Les longues épîtres où Saint Thomas More, de 1515 à 1520, défend le programme d'Erasme de renouveau culturel et religieux, parce qu'Erasme avait un programme de renouveau culturel et religieux qu'on pourrait appliquer au Québec et à tout l'Occident, ça ferait du bien. Et les lettres où Erasme, en 1519, 1520, 1521 puis 1532, présente More en modèle à l'Europe chrétienne, sont extraordinaires. Parce que Saint Thomas More est un modèle. Revenu d'Italie en 1509, Erasme termine sous le toit de Thomas More dans sa maison l'éloge de la folie, son fameux essai, éloge de la folie. Dans la préface, où il dédie son livre à More, ce prêtre hollandais qui était Erasme, c'était un prêtre hollandais, vous vous souvenez, hein, docteur en théologie depuis 1506, il donne de ce jeune avocat londonien qui est Thomas More une définition. L'homme de toutes les heures, c'est devenu le titre du film, ou de livre aussi, A Man for All Seasons, puis tout ça. Le titre d'une pièce aussi, L'homme de toutes les heures, 1960. Le film, c'est 1966. C'est un livre, un film à voir. Allez, vous cherchez cette cassette si elle existe. L'éloge de la folie provoque des remous, surtout en milieu universitaire, parce que Moore en défend l'ironie, puis comme les théologiens réclament un éloge de la raison ou de la nature, Thomas More leur donne satisfaction par son fameux livre qu'il a, Utopie, un livre absolument fascinant à lire sur un pays utopique, hein, 1515-1516, il écrit ça sous le titre « Nulle part », proclame le mode ironique à ceux qui comprennent les choses. Ceux qui comprennent le grec, surtout parce que c'est en grec. Et c'est en grec le titre. Comme under-sheriff de Londres, il est under-sheriff de Londres de 1510 à 1518, Thomas More rend la justice au niveau municipal. Il a part qu'il prend aux accords commerciaux de la cité de Londres avec Anvers, en Belgique, explique la commission royale qui, en 1515, l'envoie en Belgique, justement, premier pas vers son entrée au service de la couronne britannique, couronne anglaise. Il est ministre dans le gouvernement, que dirige d'ailleurs le cardinal chancelier Thomas Wolsey, où il est attaché comme secrétaire à la personne d'Henri VIII, le roi lui-même. Et Moore, comme ça, gravit doucement les échelons de l'État, et en 1521, il devient chevalier et under treasurer, c'est-à-dire grand argentier du royaume, ou si vous voulez, ministre des finances. En 1525, il est chancelier du duché de Lancastre, puis il est promu le 25 octobre 1529, là, 6 ans avant sa mort, grand chancelier. Il succède au puissant cardinal Wolsey, mais il n'hérite pas de ses prérogatives. Non, il n'est pas nommé cardinal, certainement pas. Quoi qu'il y avait des cardinals laïcs à cette époque. Et il laisse le roi gouverner, et Thomas More administre la justice. Et dès 1521, année où il aide Henri VIII à rédiger la Certio Septem Sacramentorum, qui va mériter d'ailleurs à Henri VIII un grand éloge du pape, qui va lui donner le titre de Defensor Fidei, titre qu'on a vu sur les pièces de monnaie, même de la reine Élisabeth II, notre chère reine actuelle. Là. C'était écrit autrefois Defensor Fidei, c'est défenseur de la foi, mais de la foi catholique, puisque le titre venait du Vatican. Tout ça est très étrange quand on y pense. Moore défend la foi non seulement en magistrat qui applique les lois anti-hérétiques, mais en apologiste, un vrai apologiste, par une longue série d'ouvrages, d'abord en latin puis en anglais, puis dès 1527, il refuse d'approuver les démarches conduisant au divorce du roi. Le roi veut divorcer, parce que pour lui, c'est une injustice grave envers l'épouse légitime Catherine, qui n'a pas le droit d'être remise comme ça au rancard. Puis sa fille, la princesse Mary, la future reine catholique d'Angleterre. Lorsque les évêques se soumettent à la mainmise de ce roi Henri VIII, la mainmise du roi sur l'Église, là, sa position devient tenable parce que le 16 mai 1532, Henri VIII l'autorise à se démettre en lui exprimant la gratitude de la nation. Il doit se démettre de ses fonctions. Et le Parlement passe en avril 1534, un act of succession qui donne priorité aux enfants nés d'Anne Boleyn, la reine depuis 1533, celle qui l'a mariée après avoir éliminé l'autre. Tous les citoyens sont sommés d'approuver cette loi par serment et Thomas More refuse. Parce que le préambule implique la répudiation, quoi, de la suprématie papale. Le pape n'est plus pape, c'est Henri VIII qui devient pape de l'Église d'Angleterre. Et le 17 avril, il est emprisonné à la Tour de Londres, ce pauvre Thomas More. Et en novembre, un pas de plus est franchi avec l'Act of Supremacy qui déclare le souverain, le roi, chef suprême sur terre de l'Église en Angleterre. Alors, refuser le serment, c'est pas en soi un crime capital. Il faut pour cela parler ou agir à l'encontre du décret. Et More va s'en garder. Et il va falloir un faux témoin pour prétendre qu'il a nié la suprématie royale. Je vous renvoie au film, on voit le personnage qui joue le faux témoin, c'est terrible. Et le 1er juillet 1535, il y a une commission spéciale qui le condamne pour haute trahison. Et une fois prononcée la sentence, là, More décharge sa conscience. Alors il fait appel aux saints et aux conciles généraux depuis 1000 ans, ainsi qu'aux autres royaumes de la chrétienté, du catholicisme, quoi, pour proclamer sa fidélité à l'Église catholique, laquelle est, en toute la chrétienté, une seule et intègre, non divisée. Et il rappelle que le schisme a pour origine la matière du mariage, et c'est donc à la fois pour l'indissolubilité du lien conjugal, du mariage, là, et pour l'unité romaine de l'Église qu'il meurt, le 6 juillet 1535, en disant qu'il est un bon serviteur du roi et de Dieu premièrement. Toute la démarche, on peut dire, de Saint Thomas More au martyr, pour se rendre au martyr, ça a duré des années, je vous ai résumé ça tout à l'heure. On va y revenir. Il n'y a pas de hâte chez lui. Il compte chacun de ses pas, il court pas vers le martyr. Il revient parfois en arrière afin de suivre les délicatesses de sa conscience qui veut aller jusqu'à l'extrême limite des concessions légitimes. Il ne veut pas trahir sa propre foi, mais il ne veut pas quand même se faire trancher la tête. Il a une femme, des enfants. Et puis, on se fait pas martyriser pour le plaisir. L'homme politique, Sir Thomas More, aura tout mis en œuvre, on peut dire, pour lutter contre cette issue épouvantable. Il va chercher à la retarder. C'est un avocat, lui. Hein? Et il aura fait appel à tout son talent professionnel pour plaider sa propre cause. Il écrit d'ailleurs, « Je ne suis pas un homme d'une vie assez sainte pour m'offrir hardiment et de moi-même à la mort. » Quelle humilité. Aucune illusion, hein? Aucune épouvante non plus. C'est avec une grande justesse, d'ailleurs, que Henri Bremont, ce grand historien, dans son bienheureux Thomas More, s'est paru en 1904, à la librairie Victor Lecoffre, rue Bonaparte à Paris. Ça a à peu près 200 pages. Et c'est passionnant, ça. Henri Bremont, qui a écrit le bienheureux Thomas More, n'était pas canonisé dans le temps. Il compare cette longue lutte avec celle de John Henry Newman, le cardinal Newman, dont je vous ai déjà parlé, qui était anglican, puis qui a marché vers sa conversion au catholicisme. C'est le même refus de brûler les étapes. C'est la même intelligence aussi des problèmes très, très complexes que ça pose. Il y a chez Saint Thomas More une grande crainte, surtout d'influencer les autres par la contagion d'une espèce de désir irréfléchi d'être martyrisé. Or, le martyr, Dieu seul a le droit d'imposer le martyr. C'est sûr. Dans ses lignes essentielles, la grande affaire, quoi, est simple. Je vous la raconte clairement, il s'agit du roi Henri VIII, je vous dis, expliquer un peu rapidement. Il désespérait d'avoir un héritier mâle avec Catherine d'Aragon. Alors, cet étrange Henri VIII, roi d'Angleterre, veut congédier sa femme. Pour avoir un héritier mâle, il tient. Parce que pour le remplacer comme roi, il veut placer la couronne royale, donc, sur la très jolie tête de sa maîtresse, comme on dit, de sa favorite, Anne Boleyn. Le pape se voit donc vivement demander d'annuler le mariage du roi. Il refuse de sanctionner ce caprice du roi d'Angleterre, qui est un pays très catholique, l'Angleterre, dans ce temps-là. Le roi réplique par une série de décrets que son prestige vraiment cruel fait approuver par les communes, la Chambre des communes, puis les évêques. Dans ses décrets, d'ailleurs, il proclame sa suprématie en matière religieuse. C'est comme s'il se déclarait pape, quoi. Il force le clergé à prêter serment et à reconnaître que l'évêque de Rome, le vrai pape, successeur de Saint-Pierre, comme vous savez, « Tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église », ça n'a aucune juridiction en dehors de son diocèse de Rome, prétend-il. Et voilà les débuts de la prétendue réforme en Angleterre. Et Saint Thomas More refuse de prêter ce serment. Ce sera la fin de Thomas More sur cette terre. Et on peut fixer avec précision la position adoptée par Sir Thomas More sur le fond d'une affaire qui va lui coûter la tête grâce à une longue lettre que le chancelier démissionnaire écrit à Maître Thomas Cromwell pour sa défense à la veille de son procès. Il considère que le roi et le Parlement sont en droit de disposer de la succession à la couronne comme ils l'entendent. Mais, le serment est rédigé de telle sorte qu'il implique, écoutez bien, le déni de la suprématie du pape. Et si More refuse de mettre cette suprématie en doute, ce n'est pas qu'il la regarde comme un dogme de foi qui s'impose à tous, c'est simplement que lui, il la croit vraie. C'est une question, pour lui, personnelle, d'authenticité et d'intégrité. Il ne tranche pas la question pour les autres. Il refuse de s'immiscer dans leur conscience. Il n'essaie même pas de les gagner à son point de vue, à ce qui est à ses yeux d'ailleurs une opinion libre. Mais pour sa part, il le dit bien, il est au terme de longues recherches sur la question. Et voilà ce qu'il déclare. Je ne puis trouver en mon cœur la force de parler autrement que ma conscience me dit de le faire. Et ma conscience sur ce point est telle qu'il y va pour moi de mon salut. Il va donc se garder de motiver autrement les raisons de son abstention. Alors les juges sont embarrassés, jusqu'au bout, mais il les maintient, comme ça, à la porte de sa propre conscience de vrai catholique, et il a gagné le droit de se sentir en paix. Oui, More laisse tranquillement couler en lui la source de ses blagues, d'ailleurs. C'est un humoriste, hein? Il est bientôt conduit à la tour, la prison aiguise son tempérament de pain sans rire, et ses derniers jours constituent extraordinaire, un chapitre original de l'art de mourir, on pourrait dire. Après la lecture de l'acte de condamnation, il y a une grande pitié qui le prend, dit-on, pour tous ceux qui, venant de le condamner, n'ose plus le regarder en face, et il leur dit dans un sourire, « C'est mon espoir et ma prière fervente que vos seigneuries, qui ont ainsi concouru à ma condamnation sur la terre, me retrouvent au ciel, où nous nous réjouirons ensemble pour toujours. Hein? » De quoi faire réfléchir les juges. Et au matin, son martyr, Sir Thomas More, est celui qui a toujours été. Pas d'affectation, pas d'exaltation. Il est calme et enjoué. Il va à la mort comme à une espèce de formalité indifférente, on dirait. Il est très anglais dans un sens, hein, plutôt que comme à une fête. Hein. Il est anglais jusqu'au bout. Un de ses plus vieux amis lui envoie une splendide robe de camelot. C'est d'une étoffe de laine et de poils de chèvre du camelot, hein. Pour ses épousailles. On appelle ça ses épousailles. La mort. Le lieutenant de la tour de Londres lui dit, « Ne la portez pas, maître. Le bourreau à qui elle doit revenir est une canaille. »« Une canaille ?» répond Saint Thomas More. « L'homme qui va me rendre un tel service. » Un tel service de l'envoyer au ciel, quoi. Et s'il cède finalement à la demande du lieutenant, il prend soin de réserver un peu d'argent qui lui reste, c'est-à-dire un angelot d'or qu'il a dans sa poche, et qu'il remet au bourreau pour lui témoigner qu'il ne lui veut aucun mal. Et Saint Thomas More se souvient qu'en se rendant au supplice, le Saint-Évêque John Fisher, exécuté quelques jours avant lui, Saint John Fisher, oui, a demandé une fourrure et craignait de s'enrhumer en route. Et Thomas More plaisante en disant adieu à son fidèle ami Thomas Pope, venu l'avertir de l'exécution, ainsi que du désir du roi, que Sir Thomas se contente de quelques paroles avant de se faire trancher la tête. Alors il dit à Thomas Pope, « Oh, mais vous faites bien, monsieur, de me le dire, car je m'étais justement promis de parler un peu longuement. Et chez lui, la bonne humeur est de tous les instants, elle l'abandonnera pas. S'il fait un martyr doucement moqueur, c'est qu'il a toujours été comme ça. Hein. Tout au long du chemin jusqu'au lieu de l'exécution, il veut dérider ses compagnons. » sont accablés de sa dernière promenade. Et au lieutenant qui attend au pied de l'échafaud, il dit, « Je vous prie, monsieur le lieutenant, de vouloir bien m'aider à monter. Sans mes aventures, je ne voudrais pas trébucher, car pour descendre, je me tuerais bien d'affaire tout seul. » Il aura la tête tranchée, le pauvre homme. Et cet humour vient tout spontanément. Hein? La pensée intime de Saint Thomas More est ailleurs. Elle est au fond de son cœur. Il s'entretient avec Dieu. Il le supplie de lui accorder la grâce dont il a besoin. L'humour de Thomas More l'accompagne jusqu'à la mort. Hein. À la foule rassemblée pour voir la décapitation, c'était comme ça autrefois, il a été décapité, la tête tranchée, il demande au shérif de lui rendre ce témoignage qu'il meure dans la foi et pour la foi de la Sainte Église catholique, comme il dit, « Bon serviteur du roi, mais d'abord de Dieu. » Et au bourreau, il lui dit, « Courage, mon garçon, ne t'effraie pas. Mon cou est plutôt court. Alors ne va pas perdre ta réputation en frappant à côté. Attends que j'aie écarté ma barbe aussi, ce serait dommage que tu la coupes, elle qui n'a jamais trahi personne. » Et c'est alors qu'il perd la tête, sans s'en porter plus mal, comme il dit. Lui qui vient d'écrire dans le dialogue du réconfort, c'est à lire ce dialogue du réconfort, « À la grande gloire du ciel, nul ne peut parvenir sans tête. » Oui, notre tête, c'est le Christ. Et ce matin-là, on peut dire que, au paradis, Dieu s'est certainement réjoui beaucoup de ce nouveau saint, Saint Thomas More, qu'il vient d'inventer. Comme dit Louis Bouilly, il le trouve fort réussi. Nous aussi. Vous pourriez lire le livre de Louis Bouilly, Sir Thomas More, humaniste et martyr, petit livre paru chez CLD, c'est pas long, une centaine de pages, magnifique livre. Il y a aussi celui de Daniel Sargent, Thomas More, chez Desclée de Brouwer, traduit en français, puis encore aux éditions du Seuil, Thomas More écrit de prison, précédé de l'avis de Sir Thomas More par son gendre, William Roper. Il y a quantité d'autres livres, je ne peux pas tout vous les signaler. Je vous ai dit tout à l'heure que l'évêque Saint John Fisher a été décapité 2 semaines plus tôt. Erasme, dans au moins 2 lettres, exprime la réaction de la chrétienté en les appelant martyrs tous les deux. Et la première biographie latine de More a été publiée à Douai en 1588 par un théologien exilé. et ça s'intitule « De la vie et du martyre de Thomas More ». Déjà, on l'appelle martyr. On ne se gêne pas. Pour l'Angleterre élisabéthaine, l'Élisabeth I, More demeure le meilleur ami des pauvres, quand même. Et le patriarche souriant, entouré d'une famille heureuse, comme je vous ai décrit tout à l'heure dans sa grande maison. Mais la propagande orchestrée par Thomas Cromwell, que je vous ai mentionné tout à l'heure, le présente comment? Comme un fanatique qui abjure à la fois l'Évangile et la tolérance religieuse et a envoyé les dissidents en geôle et au bûcher, comme si c'était lui qui était responsable de ça. Cette légende a fait loi en Angleterre pendant des siècles, jusqu'au 19e siècle. Les Anglicans répétaient ça, les protestants aussi. Mais les catholiques ont retrouvé leur liberté en Angleterre en 1829. On appelle ça l'émancipation des catholiques. Et ça permet aux catholiques de rééditer les œuvres spirituelles de More, notamment ses prières, ses lettres de prison, puis le dialogue du réconfort dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en même temps, une histoire moins partiale aussi, qui s'appuie sur les documents des archives, puis les œuvres de Thomas More lui-même, et on redécouvre alors un personnage complexe et attachant. Il est vraiment le conseiller intègre, qui va jusqu'à l'héroïsme, Saint Thomas More. C'est le croyant passionné de vérité, et donc impatient de l'hérésie. L'hérésie le fatigue. Mais sans haine pour les hérétiques. On parlait d'hérétiques dans ce temps-là. Notre langage a beaucoup changé grâce au mouvement œcuménique. On parle de nos frères séparés maintenant. Nos frères protestants, nos frères anglicans. Et actuellement, il y a de grands rapports amicaux entre le pape et le chef de l'Église d'Angleterre, c'est-à-dire l'archevêque de Canterbury. Léon XIII a déclaré bienheureux Thomas More le 29 décembre 1886 en la fête de Thomas Becket, ce fameux évêque de Canterbury qui, il y a près de 1000 ans, a été tué dans sa cathédrale. Ça a valu ce beau livre, Murder in the Cathedral, Meurtre dans la cathédrale, de T.S. Eliot. Pie XI l'a canonisé, en même temps que John Fisher, le 19 mai 1935, c'était le quatrième centenaire de leur martyr, en 1935. Hein? Ils sont morts en 1535. Depuis 1969, ils sont fêtés ensemble, comme je vous ai dit au début de l'émission, le 22 juin, et leurs écrits sont exploités dans la liturgie des heures, dans le bréviaire, si vous voulez. Quand Erasme nous parle de Thomas More au cap de la quarantaine, il le décrit comme quelqu'un qui a une taille à peine moyenne, bien découpé, poil entre brun et blond, les yeux à reflets gris bleuté, une physionomie sympathique, des mains un peu rustiques, il n'était pas coquet ni gourmet, il aimait l'eau claire, des mets ordinaires. Et bien que sa voix convienne mieux à la parole qu'au chant, Erasme dit de lui qu'il aime la musique. « Il est par nature assez jaloux de son indépendance, écrit Erasme, et de la libre disposition de son temps. Mais s'il accueille avec joie tout loisir qui s'offre à lui, nul n'est plus entreprenant, quand la situation l'exige, ni plus prêt à se gêner pour autrui. » Et il dit de lui quelque chose de magnifique, on le dirait né et mis au monde pour l'amitié. Il la cultive avec une absolue sincérité qui n'a d'égal que sa ténacité. Il aborde les jeux de hasard. Il les proscrit même dans son livre Utopie. Oh, c'était un homme taquin qui avait une compassion généreuse aussi. Il a reçu chez lui Holbein, qui l'a peint. Magnifique tableau que l'on retrouve dans la collection Frick's à New York, dans ce beau palais, cette maison splendide de Madame Frick's. Il est à gauche du manteau de la cheminée principale. Sa foi en la Providence, Thomas More, puis son détachement éclate dans une lettre où, venant d'apprendre l'incendie de ses granges, il donne à sa femme 3 consignes, c'est-à-dire de réunir toute la maisonnée pour remercier Dieu, puis veiller à ce qu'aucun des voisins ne pâtisse du sinistre. More obéit dans chacune de ces 23 œuvres à un ordre de la charité que tracent saint Paul et saint Augustin, ses deux maîtres. Qu'est-ce que c'est? Ces écrits de controverse sont nombreux, mais toujours polis, toujours respectueux. Il défend la foi catholique avec ferveur quand même. Il écrit « Réponse aux injures de Martin Luther », « Dialogue concernant diverses matières de religion », « Réfutation de la réponse de Tyndale » en 8 volumes, imaginez. Et « Le défi de Luther » accule Thomas More à faire des lectures, et ça inclut Thomas d'Aquin, ça, pas des réflexions qui ont infléchi sa pensée. Cet homme très cultivé est devenu un catholique extrêmement profond. Il cite longuement John Fisher, qui a démontré, dit-il, la primauté du pape en se basant sur les évangiles, les actes des apôtres, tout le corpus de l'Ancien Testament, le consensus de tous les pères de l'Église, non seulement les latins, mais aussi les grecs, qui sont devenus orthodoxes depuis 1056, c'est-à-dire qui sont séparés, plutôt, devrais-je dire, de l'Église romaine, l'Église latine, les grecs que Luther se targue de situer au cœur de l'opposition. Et enfin, il s'appuie sur le fait qu'au concile général de Florence Ferrare en 1438-39, les Arméniens, séparés de l'Église, et les Grecs, séparés aussi savoir, après une résistance obstinée, vaincus par la définition de ce dogme, se sont ralliés pendant quelques années à l'Église catholique. Alors, où est donc l'Église voulue par Jésus-Christ, ou biest ecclesia, écrit-il? Et ce passage de 1523 montre que Thomas More, dès son entrée dans l'arène contre Martin Luther, croit sans l'ombre d'un doute en la primauté du pape à Rome. Ses adversaires, d'ailleurs, connaissent par cœur les textes « Tu es Petrus, tu es Pierre »,« Pasce agnos meus, paix mes brebis » et « Confirma fratres tuos, confirme tes frères ». Mais ses adversaires répudient la tradition qui en a conclu à la primauté du pape. Après avoir lu la réponse à Catherine, où Luther retourne le texte de Matthieu 16-18, « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et la mort elle-même ne pourra rien contre elle », eh bien, après avoir lu la réponse où Luther retourne ce texte contre Rome, More, Thomas More, s'ingénie à dégager de la Bible une image de l'Église qui correspond non à cette société invisible d'âmes fidèles que Luther a dû voir en utopie, dit-il, avec un peu de sarcasme, mais à la chrétienté elle-même, qui doit être unie et toujours unie. Il est très ferme. Hein? Et comment, dans cette promiscuité, reconnaître l'épouse du Christ, sainte, sans tache ni ride? Et More répond qu'elle est si sainte qu'elle est appelée le royaume des cieux. Elle est appelée sainte parce que personne sur la terre n'est saint qui n'est pas membre de cette Église s'il la reconnaît comme l'Église du Christ. Cette Église-là, humaine autant que divine, est le corps mystique du Christ, dit-il, et son chef est avec elle jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, il s'appuie aussi sur saint Augustin, que il ne peut croire qu'à une autre Église qu'à l'Église catholique. L'Église est la mère, qui nous partage le pain des Écritures, il s'appuie sur ces choses-là. Elle a pour âme l'Esprit-Saint même, qui a inspiré les livres de la Bible du Nouveau Testament, et qui continue à lui en révéler le sens au cours des âges. Et s'il faut scruter les Écritures, More en a une connaissance étonnante, il connaît ça par cœur, pour ainsi dire, mais la pierre de touche de la vérité n'est pas la parole de Dieu écrite, mais l'Évangile vivant. Vivant de la foi de l'Évangile unique, qui s'applique à l'Église universelle dans le cœur des fidèles et qui est infusée dans le cœur des fidèles. Dans la supplique des âmes qu'il a écrite après avoir aligné 10 textes des deux testaments susceptibles de justifier la prière pour les défunts, pour les âmes du purgatoire, More ajoute que le dogme du purgatoire n'est fondé sur aucun de ces textes, mais sur l'usage immémorial et universel de l'Église de prier pour les âmes au cours de la liturgie eucharistique et pour démontrer la présence réelle maintenant, car il défend la présence réelle, Thomas More consacre de longues pages au texte de base, c'est-à-dire le discours sur le pain de vie qu'on retrouve dans Saint Jean, l'Évangile de Saint Jean, chapitre 6, les versets 26 à 71. Il s'appuie aussi sur l'institution de l'Eucharistie. Ceci est mon corps. Il prend ça à la lettre. Le même raisonnement lui sert à justifier le culte des images et des reliques, ainsi que l'institution des monastères, des moines, des moniales. Il est fidèle au réformisme d'Érasme, et More dénonce les aberrations. Mais le bon usage est à ses yeux le fruit du développement continu auquel préside qui? L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Et c'est en champion de cette unité que More va verser son sang. Et il dit à ses juges, je vous le rappelle, « L'Église est en toute la chrétienté une seule et intègre, non divisée. Et vous seuls, messieurs, n'avez autorité quelconque, sans le consentement des autres chrétiens, de faire loi ou acte de parlement contre la dite union de la chrétienté. » Il s'agit donc, pour Thomas More, de vivre l'Évangile. Saint Thomas More pense, comme quelqu'un de son époque, évidemment, il est mort en 1535, et c'est l'évêque luthérien Dibelius de Berlin de nos jours qui déclarait, « Si l'Église catholique, d'il y a 450 ans, avait été ce qu'elle est aujourd'hui, il n'y aurait jamais eu de réforme. » Pensait comme lui le révérend Albert Uller, méthodiste de Dallas, aux États-Unis, le presbytérien révérend Robert McAfee Brown, le luthérien Lindbeck de l'Université Yale. Alors, c'est pour vous dire que, à l'époque, ça n'était pas facile de demeurer catholique en dépit des excès et des graves péchés de certains catholiques et de certains responsables même de l'Église. Tout ça survient pas longtemps après Alexandre VI et toutes sortes de choses. Je n'insiste pas sur ces choses qui me peinent au cœur parce que j'aime l'Église. L'autorité de l'Église catholique qui a poussé saint Augustin à embrasser l'Évangile, vous en avez glissé un mot tout à l'heure, c'était pas un enseignement, c'était le témoignage vécu d'une société visible, puis d'une histoire aussi. Et de même pour More, lorsque vers 1505, il traduit cette phrase de Pic de la Mirandole. Écoutez bien, ça c'est formidable ce que dit Pic de la Mirandole. Il faudrait bien que je vous parle de lui un jour. C'est folie de ne pas croire à l'Évangile. Deux points. Le sang des martyrs en crie la vérité. La voix des apôtres la proclame. Les miracles la prouvent. La raison la confirme. C'est ce que je vais essayer de raconter ce soir dans ma conférence. L'univers l'atteste. Les éléments la traduisent. Et les démons la confessent. Il ajoute cette phrase extraordinaire. Pire folie encore, écoutez bien, pire folie encore quand on ne doute pas que l'Évangile soit vrai, de vivre comme si on ne doutait pas qu'il fût faux. Si on doute, c'est très grave, alors qu'on n'est pas sûr. Mieux vaut se ranger de ce côté pour trouver le bonheur. More prend à cœur, sinon à la lettre, les exigences des béatitudes. Vous connaissez ça, le sermon des béatitudes. Il avait lu et peut-être entendu les deux sermons de Saint John Fisher sur ce beau texte de Matthieu 5, 20. Hein? « À moins que votre justice n'abonde et ne dépasse la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais au ciel. » Jésus n'y va pas de main morte. Hein? Et dès 1506, More se justifie de publier un dialogue de Lucien, comme je vous ai dit, sur les cyniques, en soulignant que leur vie simple, frugale, pauvre même, fait honte à bien des chrétiens trop douillets pour emprunter le chemin étroit qui mène à la vie. Constatant une interprétation relâchée de ce joug aisé, fardeau léger qu'on trouve dans Matthieu 11, 30, faut pas interpréter, quand Jésus dit « mon joug est léger », c'est l'amour qui le rend léger. Et il monte en épingle, lui, les substantifs. Ce joug et ce fardeau, qu'est-ce à dire? Que réclame le Christ de ses disciples? Alors, Saint Thomas More raconte, il faut veiller, il faut prier, il faut jeûner, il faut renoncer à soi-même. Il faut verser son sang pour le confesser devant les hommes. Il faut éviter non seulement toute parole de colère, mais encore toute parole inutile. Ma mère disait qu'on souffrirait longtemps au purgatoire pour toute parole inutile. Je retrouve ces choses. Mais Moïse n'a imposé aux Juifs rien d'aussi difficile, disait Thomas More. Puis pour le corps du Seigneur, si le corps mystique du Christ occupe la première place dans les écrits de More, la seconde revient à son corps eucharistique et pour lui, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », c'est signe qu'il y a la présence eucharistique parmi nous. Mais le récit de l'institution est suivi d'une chaîne de citations qu'il emprunte à 19 auteurs depuis le martyr de Saint-Ignace au début Saint-Ignace d'Antioche et Justin jusqu'à Théophylacte puis Anselme. Alors la nuée des témoins en faveur d'une acceptation littérale de « ceci est mon corps, ceci est mon sang », ça le dynamise, il le répète inlassablement jusqu'à la dernière phrase de ses traités. Hein. « Donne-moi ta grâce spécialement, ô Seigneur, de me réjouir en la présence de ton corps très béni, oui, ô doux Sauveur Christ, dans le Saint-Sacrement de l'autel. » Et dûment de te remercier pour ta gracieuse visitation par ce sacrement. Et à ce haut mémorial, avec tendre compassion, de remémorer et considérer ta très amère passion. Fais-nous tous, bon Seigneur, participer à la vertu de ce saint sacrement aujourd'hui et chaque jour, fais de nous tous des membres vivants. Doux Sauveur Christ, de ton saint corps mystique, ton Église catholique. Ah, il a des prières absolument admirables. Il a écrit tellement de choses spirituelles superbes, des longues prières. Il a le traité des fins dernières. Ah, le début correspond à la prière, là, « To make that no stranger to me », c'est-à-dire « m'apprivoiser à la mort, puisque je meurs tout le temps que je vis. » Puis ce fameux dialogue du réconfort, puis il écrit sur Gethsémani aussi. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La grandeur de More tient dans son équilibre, à mon sens, un grand équilibre de chrétien, profond, admirable. Sa piété associe et conjugue, on peut dire, la nature, la grâce. Il y a les liens du sang pour lui, le mariage, le baptême, le voisinage, l'amitié, la promesse, le service, tout ça, les âmes du purgatoire. Il vit dans un monde de merveilles et d'amour. Et c'est un humoriste qui prêche les choses sérieuses. Et Erasme dit, dans ses relations aussi bien avec ses parents qu'avec ses enfants et ses sœurs, Saint Thomas More, que je dis Saint Thomas More, mais lui l'appelle More simplement, c'est tout en évitant d'importuner les siens par une affection accaparante, ne leur jamais faire défaut dans les devoirs qu'exige un dévouement pieux. C'était donc un homme deux fois marié, honnête, vrai, un catholique extraordinaire, et l'inscription que les descendants élisabéthains de More ont mis sur son portrait, Christianus Catholicus, chrétien catholique, prépare la formule de Pie XI, Que uomo completo. Quel homme complet, oui, quel homme complet.